Alors, j'avais proposé comme sujet les symboles constitutionnels. Alors que je vous explique, dans notre constitution, dans l'article 2, il y a un bloc de symboles, enfin considérés comme des symboles, qui sont la langue, qui a été rajoutée dans la constitution après une révision constitutionnelle de 1992. La langue de la République est la langue française. Ensuite, on a le drapeau national. Puis on a l'hymne national est la Marseillaise. Ensuite, on a la devise. Et le cinquième élément de ce bloc de symboles, c'est la formulation, le gouvernement de la République pour le peuple, par le peuple, etc., qui est une formule qui vient de Jefferson. Je ne prends que les trois du milieu, c'est-à-dire que je prends les trois symboles qui jouent un rôle très actif dans la vie politique de la France, dans la vie révolutionnaire de la France, dans tout ce qui est activité militante, manifestation militante, cérémonie officielle, à savoir le drapeau, l'hymne. Alors la devise, c'est pas exactement sur le même plan, bien sûr, que le drapeau et l'hymne, mais c'est quand même très présent dans notre vie, parce que la devise est inscrite sur toute une série de monuments. Tandis que la langue, on voit bien que c'est quelque chose à part. On défile pas dans la rue en criant on veut parler français, ça c'est sûr, même s'il y a des gens qui se battent autour des langues régionales et tout. Et puis la formulation gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ben on sait que ça existe, mais c'est inscrit nulle part et ça fait pas partie des slogans qu'on crie dans la rue alors qu'on va chanter la Marseillaise ou qu'on va crier liberté ou des choses de ce genre. Donc, j'ai choisi de travailler sur ces trois symboles, je viens de terminer un livre là-dessus, donc qui sortira en septembre, pour la raison suivante, d'une part ça m'intéresse, et il y a des livres et des articles sur chacun de ces symboles, mais pris séparément. Il y a des livres sur la Marseillaise, il y a des livres sur le drapeau, il y a des livres sur la devise, et je trouve très regrettable que chacun de ces trois éléments soient traités séparément les uns des autres. Parce qu'en fait, ils ont une histoire commune. Ils sont tous les trois nés pendant la Révolution française, pas exactement au même moment, 89, 90, 92. Ils ont disparu tous en même temps sous la Restauration. Ils ressuscitent pas à la même date, ils redisparaissent pas exactement à la même date. Bref, ce qui m'intéressait, c'était de traiter leur histoire en commun, pour voir comment ils sont associés, comment ils se dissocient, comment ils meurent, comment ils ressuscitent, etc. Mais parler des trois symboles en même temps, ici, je vous avais dit, je ne sais pas si je parlerai des trois symboles ou d'un seul. Et en fait, parler des trois symboles en même temps en 1 heure, c'est impossible. Vous voyez, je donne des cours, je donne quelques séances de cours chaque année à l'université pour tous de Bourgogne. J'ai passé 8 heures sur les symboles, ces trois symboles, et c'était trop juste en réalité. Donc en 1 heure, c'était vraiment pas possible. Donc j'ai pris un des symboles, et comme je devais parler devant des juristes à Chambéry de la devise, bah du coup j'ai gardé aussi la devise. Donc allons-y pour la devise de la République. Alors les principes correspondant aux trois mots de notre devise, donc liberté, égalité, fraternité, remontent à des temps anciens, certaines de leurs racines s'enfonçant dans un terreau chrétien, on les renvoie souvent à des racines chrétiennes. Liberté, la liberté que Dieu a laissée à ses enfants, l'égalité de tous les hommes devant Dieu et la fraternité, l'amour de tous les hommes entre eux, pour l'amour de Dieu, c'est ce qui correspond à la vertu de charité. Mais ce terreau chrétien va laisser place au XVIIIe siècle à un autre type d'enracinement, la nature, la raison, le progrès, les lumières vont parler de la liberté, de l'égalité, de la fraternité dans des termes très différents des termes chrétiens originaux. Alors cette nouvelle conception de la liberté, de l'égalité et de la fraternité s'est propagée insensiblement tout au long du XVIIIe siècle, et Tocqueville, dans l'Ancien Régime et la Révolution, écrivit: Il se répandait ainsi peu à peu dans la nation que l'égalité seule était conforme à l'ordre naturel des choses, qu'en elle était contenue l'idée simple et générale qui devait présider à l'organisation d'une société bien réglée. Et à la veille de la Révolution, Emmanuel Seyès, l'auteur de « Qu'est-ce que le tiers-État ?», etc., etc., Emmanuel Seyès écrivit que le clergé et la noblesse étaient conscients que leur privilège était une monstrueuse iniquité qui ne pouvait durer. Donc là encore, il y a une ouverture vers l'égalité qui doit régner entre les hommes. Donc on va dans un premier temps parler de la Révolution. Alors liberté, égalité, fraternité n'a pas été à proprement parler une devise de la Révolution, même si la formulation est apparue durant la Révolution. D'ailleurs, la Révolution n'a pas eu de devise officielle. On a eu toute une série de devises qui ont varié, constituées de deux mots, de trois mots, de quatre mots, les mots les plus souvent utilisés étant humanité, justice, paix, union, mais aussi liberté, égalité, fraternité. Mais on avait beaucoup plus souvent sur des documents officiels ou dans des slogans, on avait beaucoup plus souvent liberté et égalité tout seul que liberté, égalité, fraternité. Et l'association de ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, a été pour la première fois proposée par Robespierre en 1790. Le Robespierre de 1790, c'est pas le Robespierre de 93 et 94, hein. C'est pas le Robespierre de la Terreur. C'est encore un député relativement quelconque au milieu de toute une série d'autres députés de la Constituante. Et donc, quand il propose cette association des trois mots, et que ça n'est pas reçu, il ne faut pas vous étonner, Robespierre n'est pas tout puissant à l'époque. Donc lui, il avait proposé cette association Liberté, Égalité, Fraternité pour le drapeau et pour l'uniforme de la garde nationale. Et donc il devait le proposer dans un discours le 5 décembre 1790 à la Constituante, mais comme dans son discours il y avait d'autres propos qui se rapportaient à l'armement des citoyens, c'est des propos qui ont déplu à l'ensemble de la Constituante, quand il a commencé de parler des murmures qui se sont élevés à cause de cet armement des citoyens, il a dû remballer son discours, si je puis dire, et donc il n'a pas parlé devant tous les constituants de ce projet pour l'uniforme et le drapeau de la garde nationale. Mais son discours a été imprimé et distribué, s'est répandu dans les clubs, notamment dans le club des Cordeliers, et cette formulation a été retenue et elle est réapparue de manière dramatique, extraordinaire. En 1793, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, en 1793, sur les murs de Paris, à la demande du maire de Paris, qui s'appelait Jean-Denis Pêche, et d'un conventionnel, Momoreau, les propriétaires de Paris sont priés, ce qui voulait dire reçoivent l'ordre, de peindre sur les murs de leur façade liberté, égalité, fraternité ou la mort. Étant entendu qu'il y a des discussions autour de cette formulation, ou la mort, est-ce que ou la mort, ça porte seulement sur le dernier mot, fraternité, est-ce que ça porte sur l'ensemble de la formulation, et que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que ça veut dire, comme Champfort l'a dit plaisamment, sois mon frère ou je te tue? Si tu veux pas être mon frère, eh bien je te tue. Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui dit je préfère mourir que de vivre dans une société où ne règne ni la liberté, ni l'égalité, ni la fraternité. Bref, il y a eu ça écrit sur les façades parisiennes et puis progressivement sous le consulat et l'empire, toutes les devises antérieures, deux mots, trois mots, quatre mots et ces inscriptions, bien évidemment, ont disparu au profit d'une devise de l'empire qui a été liberté et ordre public. Mais cet idéal de liberté, d'égalité et de fraternité n'a pas disparu complètement des mémoires et a réapparu. Alors c'est ce qu'une historienne américaine qui s'appelle Jan Gilmore a appelé la République clandestine, c'est-à-dire pendant la Restauration, puis ensuite pendant la monarchie de Juillet, c'est-à-dire les deux monarchies constitutionnelles, il y a un discours des valeurs républicaines qui continue de se propager de manière souterraine, dont les idées de liberté, d'égalité, de fraternité, et qui réapparaissent au grand jour dans les années 40 par des titres de journaux qu'on laisse paraître et par différents discours ou publications de personnalités politiques. Par exemple, Pierre Leroux, alors qui est connu pour être l'inventeur du mot socialisme, qui est un néologisme à son époque. Donc voilà comment Pierre Leroux, en 1843, parle de la devise « liberté, égalité, fraternité ». C'est absolument extraordinaire. Il dit, elle, donc la devise « liberté, égalité, fraternité », elle est vraie, elle est sainte, elle est l'idéal à suivre, elle est l'avenir révélé, elle règne déjà en principe, elle régnera un jour en fait, elle est ineffaçable et immortelle. Vous voyez un ton quasi mystique pour cette devise ineffaçable, immortelle, etc., etc. Ce qui fait que ce n'est pas étonnant si, au moment de la révolution de 1848, dès le 24 février, le gouvernement provisoire adresse au peuple français une proclamation dans laquelle on relève ces lignes. La liberté, l'égalité, la fraternité pour principe, le peuple pour devise. Alors vous voyez là, liberté, égalité, fraternité, c'est pas désigné comme une devise, c'est divisé comme un ensemble de principes, mais la devise de 48, c'est le peuple pour devise. Voilà. Et mot d'ordre, voilà le gouvernement démocratique que la France se doit à elle-même et que nos efforts seront lui assurés. Et le 4 novembre 1848, quand la Constitution est achevée et publiée, eh bien, on retrouve les mêmes mots. Elle, c'est-à-dire la République française, a pour principe la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors, il faut signaler que liberté, égalité, fraternité en novembre 48, par rapport à février, ça fait un peu bizarre, parce qu'entre-temps, il y a eu l'insurrection ouvrière de juin, et que l'on ne peut pas dire, vu la répression de l'insurrection ouvrière de juin, on ne peut pas dire que la liberté, l'égalité et la fraternité, surtout l'égalité et la fraternité, avaient été mises au pinacle. Enfin, bref. C'est quand même inscrit dans la Constitution et ça y demeure jusqu'au Second Empire qui abolit de nouveau liberté, égalité, fraternité, lesquels mots reviendront sous la Commune, donc de manière extrêmement fugace, et puis ensuite ne reviendront qu'après la première décennie de la Troisième République, donc la Troisième République proclamée le 4 septembre 1870, il y a la Commune. La Commune est écrasée et pendant plusieurs années, on a une république qui n'est pas vraiment une république, puisque la majorité à l'Assemblée nationale, comme on dit à ce moment-là, est monarchiste avec un bloc de bonapartistes. Il y a ce qu'on appelle dans un premier temps la République des Ducs, avec le duc de Broglie notamment. Puis, après l'amendement Vallon de 1975, bon, il y a eu la démission de Thiers, ou plutôt le renvoi forcé de Thiers en 1973, l'élection de MacMahon. MacMahon lui-même est un monarchiste légitimiste. Bien, il y a l'amendement Vallon de 1975, mais jusqu'aux élections de 1976, la dissolution de la Chambre, la réélection d'une assemblée où les Républicains sont de nouveau en majorité comme en 1976, puis le départ de MacMahon, on a une république qui est pas vraiment totalement républicaine. Elle devient vraiment, c'est ce qu'on appelle la République aux Républicains, qui se constitue à partir de 76, vraiment 77, et vraiment 79, quand MacMahon donne sa démission, et que le président de la République élu est Jules Grévy. Et comme entre-temps, il y a eu les renouvellements partiels du Sénat, il y a eu des élections municipales, des élections cantonales, toutes les structures sont devenues républicaines. Et là, à partir de là, on a une république qui est vraiment une république républicaine, qui va instaurer la fête nationale du 14 juillet. Et c'est à peu près à partir de ce moment-là que la devise liberté, égalité, fraternité va réapparaître et va être portée souvent sur des murs des façades. Mais contrairement à ce qu'on voit souvent écrit, on ne trouve pas de texte qui dise on doit inscrire sur les façades et notamment les façades de mairie, liberté, égalité, fraternité. Ça s'est fait spontanément. Moi, j'ai cherché désespérément ce texte. Et il y a un autre historien, Gérard Meunier, qui a écrit avec Evelyne Cohen un livre qui s'appelle « Territoire de Signe », qui dit « Il n'y a pas de texte qui oblige les municipalités à inscrire cette devise ». Enfin, on reviendra sur la devise dans l'espace public tout à l'heure. Alors, cette devise, elle vit de sa belle vie pendant toute la Troisième République, et puis arrive 1940, arrive l'État français, autrement dit Vichy, et comme vous le savez, liberté, égalité, fraternité va laisser la place à travail, famille, patrie. Des trois symboles constitutionnels, c'est le seul qui disparaît, la devise. Parce que contrairement à une idée reçue, la Marseillaise n'est pas du tout éclipsée par Maréchal Nous Voilà. Il y a des travaux qui ont été menés par une politiste ou politologue là-dessus, Nathalie Dompnier, qui a fait une étude très serrée du chant de Maréchal Nous Voilà et de la Marseillaise dans les visites officielles du maréchal Pétain. La Marseillaise était chantée beaucoup plus souvent que Maréchal Nous Voilà. En revanche, quand le maréchal Pétain allait visiter des écoles, les enfants lui chantaient un couplet de la Marseillaise, notamment le couplet des enfants, et il lui chantait Maréchal Nous Voilà. Mais donc, la Marseillaise, globalement, a été chantée plus souvent que Maréchal Nous Voilà. Et puis enfin, bien sûr, le drapeau est resté le drapeau tricolore, mais avec... pas systématiquement, mais dans certains cas, et notamment sur le fanion qui était sur la voiture du maréchal Pétain, il y avait la Francisque qui était sur la partie blanche, de même qu'à Londres, sur la partie blanche du drapeau, il y avait la croix de Lorraine, voilà. Donc, des trois symboles constitutionnels, la devise est le seul qui est disparu, et qui n'est d'ailleurs pas une invention ni du maréchal Pétain, ni de Laval, ni de quiconque. C'est une formulation qui a été reprise dans un livre du colonel de la Roque, donc le chef des croix de feu. Le colonel de la Roque avait publié un livre en 1934 qui était intitulé « Service public ». Et il y avait cette proposition de formulation qui aurait pu servir de devise là-dedans. Un terme qui est important dans travail, famille, patrie, c'est famille qui correspond. Vous savez que la France était en plein processus de dénatalité, où la mortalité l'emportait sur la natalité. La population française par rapport à la population allemande s'éloignait de plus en plus. Donc il y avait à mener quelque chose, une propagande nataliste importante, et travail, famille, patrie correspond à cette propagande nataliste. Alors travail, ça correspond bien sûr à tout ce qui avait été les congés payés sous le Front populaire, les ouvriers, ces fainéants qui pensent à des vacances, etc., etc. Et puis patrie, c'était contre les internationalistes, les communistes, etc., etc. Donc, on a cette devise pendant 4 années, et cependant, liberté, égalité, fraternité ne disparaît pas complètement, puisque cette devise, elle va vivre dans les maquis, elle va vivre chez l'FTP et elle va vivre à Londres. Elle ne va pas vivre à Londres d'ailleurs tout de suite parce qu'au départ, le général de Gaulle a pris comme devise, et notamment quand il commençait de prendre la parole à la BBC, il disait pas liberté, égalité, fraternité, il disait honneur patrie. Et il n'avait pas voulu... Honneur patrie, c'est par ailleurs l'inscription qui était marquée sur tous les drapeaux régimentaires. Et quand en 1880, on avait fait une distribution des drapeaux reconstitués après la défaite de 71, tous ces drapeaux régimentaires portaient sur une face honneur patrie, et sur l'autre face des drapeaux régimentaires, il y avait le nom des batailles, des victoires que ces régiments avaient remportées. Donc, au début, pas la devise pour le général de Gaulle, et c'est en 1941, le 15 novembre 1941, que dans un discours donc prononcé à Londres, il annonce que désormais il adopte trois devises, donc honneur et patrie, qu'il avait depuis l'année antérieure, libération, parce que c'est l'idéal à obtenir, et entre les deux, liberté, égalité, fraternité, et il explique ainsi, parce que notre volonté est de demeurer fidèle aux principes démocratiques que nos ancêtres ont tiré du génie de notre race, race au sens ancien du terme bien évidemment, et qui sont l'enjeu de cette guerre pour la vie et pour la mort. Donc 1944-1945, la devise revient, et grande innovation par rapport à tout ce qui avait précédé, la devise est constitutionnalisée. Jusqu'à présent, les symboles constitutionnels n'avaient pas été inscrits dans la Constitution, mis à part la devise dans la Constitution de 1848. Mais dans les lois constitutionnelles de 1975, il n'y a rien sur les symboles, drapeaux, hymnes, devises, ni dans les différentes constitutions qui s'étaient succédées sous la Première République. Donc pour la première fois, les trois symboles sont constitutionnalisés. D'ailleurs, un petit peu à la va-vite, parce que c'était tellement peu, enfin il y a des juristes, enfin des constitutionnalistes qui ont travaillé là-dessus, c'était tellement pas habituel d'inscrire des symboles dans une constitution que les constituants ont fait passer ça vraiment assez rapidement. Parce qu'une constitution, on considérait que c'était fait pour assembler les pièces d'un mécano. Quels sont les instruments du législatif, quels sont les instruments de l'exécutif, comment on agence tout ça ensemble, quels sont, enfin bref, les symboles, la symbolique qui relève de l'imaginaire et de l'affectif, paraissait ne pas vraiment faire partie du langage du constitutionnaliste. Donc, ces trois symboles, plus gouvernement du peuple par le peuple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus la langue française à partir de 92, sont inscrits alors dans la constitution du 27 octobre 46 et reprises ensuite dans la constitution du 4 octobre 1958, avec une petite différence intéressante. Dans la constitution du 27 octobre 1946, il est précisé pour le drapeau que le drapeau national est le drapeau bleu-blanc-rouge à trois bandes verticales d'égale dimension. Alors que en 58, le drapeau national est le drapeau bleu-blanc-rouge et sans plus de précision, on ne parle plus des bandes verticales et on ne parle plus des égales dimensions. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que un certain temps après la constitution du 4 octobre 58, chacun des trois termes de la devise a été en quelque sorte reconstitutionnalisé. C'est-à-dire que en 71, alors ça c'était à propos de la liberté d'association, en 71, le Conseil constitutionnel a été saisi pour une question relative à la liberté d'association et il a bien dit que la liberté était une liberté qui avait une valeur constitutionnelle. L'égalité, c'était en 73 et c'était à propos de la parité entre les hommes et les femmes. Où donc l'égalité entre les citoyens, quel que soit leur sexe, on ne disait pas encore leur genre, est bien une valeur constitutionnelle. Et plus récemment, c'est la fraternité qui a bien été définie comme une valeur ou comme un principe constitutionnel. Je ne sais pas si vous rappelez cette histoire, ce n'est pas si vieux que ça. En 2018, il y a eu deux hommes, mais on en a surtout parlé d'un, qui s'appelait Cédric Héroux, qui vit dans les Alpes de Haute-Provence ou la Haute-Savoie, ou je ne sais plus trop bien où, et qui est tombé sur des immigrés clandestins qui rentraient en France et qui étaient perdus. Et il les a guidés, parce qu'il y avait des femmes, il y avait des enfants, enfin, ils étaient en difficulté. Il les a guidés et il a fini par les abriter dans un entrepôt abandonné de la SNCF. Et donc, il y a une plainte qui a été déposée, sans doute par le préfet du département contre lui. Puis, a saisi le Conseil constitutionnel par une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. Il y a un autre homme dont on a moins parlé à l'époque, qui avait accompli des actions à peu près équivalentes, Pierre-Alain Mannoni, qui a déposé aussi une QPC, et le Conseil constitutionnel a amalgamé les deux QPC et a décidé que la fraternité était bien une valeur constitutionnelle et qu'on ne pouvait pas poursuivre quelqu'un qui avait aidé des migrants, même s'ils étaient en situation inégale, s'il l'avait fait pour un motif humanitaire et sans en tirer de bénéfice personnel. Et donc là, c'est bien là, en 2018, que la fraternité a été désignée comme une valeur constitutionnelle. Alors, donc très rapidement, hein, parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire là-dessus sur la devise, donc j'aborde un troisième point, là maintenant, inculquer la devise aux citoyens. Parce que c'est bien beau de dire qu'on a une devise, que chacun de ces trois termes a bien une valeur constitutionnelle, mais il faut s'assurer que tous les citoyens connaissent cette devise. Autrement, à quoi bon donner une devise à la République ? Alors, il y a plusieurs moyens pédagogiques qui sont à disposition de l'État pour que cette devise soit connue de tous les citoyens. C'est une place dans l'éducation civique et morale prodiguée aux élèves. Et ensuite, c'est l'inscription, la visibilité de la devise dans l'espace public, d'une part par l'inscription de la devise elle-même sur des façades, et notamment de mairies, mais pas seulement, et puis également par la statuaire publique, puisque dans l'espace public, on va voir des statues de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Alors, en premier point, je passe par les manuels. Alors, sous la Troisième République, l'inculcation de la devise et des autres symboles, donc, passa par les manuels d'instruction civique et morale destinés aux écoliers. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la devise a été expliquée aux écoliers. Je n'ai pas pris tous les manuels d'instruction civique et morale, j'en ai pris deux assez importants. Celui de Paul Bert. Alors Paul Bert était un grand savant, ça avait été le principal disciple de Claude Bernard, c'était un grand physiologiste, et puis avec la guerre de 70-71, il tombe dans la politique et il est nommé préfet dans le Nord par Gambetta, et puis après il lâche plus jamais la politique, et il a été un bref temps dans le ministère Gambetta, ministre de l'instruction publique. Mais il a écrit des petits livres, il n'était pas le seul universitaire de l'époque, parce qu'il était professeur de physiologie, il n'a pas été le seul universitaire à l'époque à produire des petits livres pour les écoliers. Il y en a eu pour des livres d'histoire, des livres de géographie, un petit peu de tout. Donc, il écrit un manuel qui s'appelle « Instruction civique à l'époque ». Il consacre plusieurs leçons à la devise, 4 leçons à la liberté, 3 à l'égalité et 4 à la fraternité. Alors, on dit très souvent que dans les livres, que l'instruction civique était faite pour les petits Français, pour leur apprendre à devenir de bons patriotes, à servir la patrie, que ça s'adressait particulièrement pour les garçons, servir la patrie par les armes, venger la France qui avait perdu l'Alsace-Lorraine, etc., etc. Moi, en réalité, je trouve que ces livres d'instruction civique et morale, ils ont une dimension beaucoup plus idéologique que patriotique, vous allez voir. Leçon de la liberté. J'ai retenu ce qui réapparaît après dans les résumés, la formule que les enfants doivent absolument connaître. Ce qu'ils doivent absolument connaître, c'est « En respectant les lois, vous serez entièrement libre. » Pas question que vous deveniez des anarchistes. Hein. La liberté, c'est de respecter les lois. Bon. 3 leçons pour l'égalité. Le principe, c'est que tous les Français ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Là, il n'y a rien à dire. Mais il continue. La différence de fortune n'empêche pas l'égalité dans la société. Eh ben donc, tiens donc, la différence de fortune n'empêche pas l'égalité. Alors, il dit ça, c'est dans le résumé, mais il disait dans la leçon elle-même que certes, quand on est fils de bourgeois, on a plus de chances de devenir magistrat, député ou patron que si on est fils d'un ouvrier. Mais enfin, que grâce à des systèmes de bourse et à d'autres actions de la République, ça finira par s'arranger et que tout ça n'est pas bien grave. Enfin, c'est quand même un petit peu étonnant. Et alors, pour la fraternité, c'est assez intéressant ce qu'il dit. Il consacre donc, comme je vous l'ai dit, 4 leçons à la fraternité. Il dit, il n'y a pas de danger qu'on oublie l'égalité, ni la liberté. Chacun y a trop d'intérêt pour cela. Mais pour la fraternité, c'est autre chose. Ceux qui souffrent y pensent bien, mais les gens heureux l'oublient trop souvent. Là, c'est bien vu, pour le coup. Alors, j'ai regardé dans un autre livre d'instruction civique et morale, celui d'Ernest Lavis, qui est surtout connu pour ses livres d'histoire, mais qui a publié également des discours aux enfants et de nouveaux discours aux enfants. Chaque année, pendant entre 1903 et 1910, je crois, il retournait dans sa petite ville natale, en Picardie, le Nouvion en tirage, et au moment de la distribution des prix, il faisait un discours aux enfants, et tous ces discours ont été publiés en 2 recueils. Mais il a aussi écrit sous le pseudonyme de Pierre Lallois, et là, Héloïse, qui ne s'invente pas, il a publié une première année d'instruction civique et morale. Et voilà ce qu'il écrit. « Tous les Français ont les mêmes droits les uns que les autres. Vous verrez pourtant dans cette société des inégalités. » Là, j'ai coupé quelque chose. « Vous entendrez dire souvent que l'inégalité des conditions est injuste. » Vous répondrez que cette inégalité ne peut être évitée. Et voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, moi, je trouve que la visée idéologique de ces livres est beaucoup plus importante, au bout du compte, que la visée patriotique. Alors, maintenu, ça, c'est pour la Troisième République. Bon, il faudrait faire une analyse de tous les manuels d'instruction civique et morale. Donc, maintenu sous les deux républiques suivantes, donc la Quatrième et la Cinquième, l'éducation morale et civique tendit à disparaître à partir des années 1960 et surtout de 1968. Moi, je me souviens, j'étais professeur d'histoire et géographie à l'école normale de Melun, de 1973 à 1985. Et on avait à l'époque, comme élèves, les normaliens, donc des postes bacheliers, et on avait aussi des instituteurs en place, en titre, qui venaient faire des stages de formation continue. Et à l'époque, on avait une drôle de formulation pour les désigner. On disait les instituteurs en recyclage, ce qui était quand même étonnant. Et donc, je me souviens avoir voulu faire travailler ces instituteurs non seulement sur l'histoire, mais aussi sur l'éducation civique et morale. Je me suis fait renvoyer dans les cordes, mais comme quelque chose de pas possible. Et je me souviens d'une institutrice qui venait de Montreux qui m'avait dit que c'était pour elle absolument exclu qu'elle fasse de l'éducation morale à des enfants venant de la zone de Surville, vivant dans des situations très difficiles, etc. C'était impossible de parler d'éducation civique et morale à certains instituteurs à l'époque, vraiment. Ils considéraient presque ça comme une provocation. Donc, il y a tout un pan où cette éducation civique et morale tend à disparaître, et elle a été réactivée. Pas très longtemps après, finalement, mais elle a été quand même une quinzaine d'années après, une vingtaine, par Jean-Pierre Chevènement, qui a été ministre de l'Éducation nationale de 1984 à 1986 et qui a remis sur rail et l'histoire et l'éducation civique et morale. Et puis ensuite, un certain nombre d'autres ministres qui sont repassés par là. On a eu Peillon, Fillon et Blanquer qui ont remis pas mal l'accent là-dessus. Alors actuellement on en est là. Par son arrêté du 24 mai 2018, le Conseil supérieur des programmes établit une progression pour les cycles 2 à 4 puisque les années de scolarité primaire et premier degré sont regroupées par cycle. Hein. Premier cycle, c'est la dernière année de maternelle, CP1, etc., etc. Donc, du cours préparatoire à la classe de 3e, ça fait 9 années. Et l'apprentissage civique et moral est concentré sur 4 années pour les enfants de 6 à 10 ans. La devise doit être connue des élèves du CE1. La Marseillaise au niveau du CE2, enfin, etc., etc. Alors que quand Jean-Louis Blanquer était ministre de l'Éducation nationale, grâce à un amendement, alors l'amendement a été déposé par un député, qui en l'occurrence était Éric Ciotti, mais le gouvernement a soutenu cet amendement. Donc, il y a eu un nouvel article qui a été ajouté au Code de l'Éducation nationale dans la loi de 2019, dite « pour une école de la confiance ». La devise de la République doit être affichée dans chacune des salles de classe, des établissements du premier et du second degré, public ou privé, sous contrat. La façade de l'école, les murs de la classe et les programmes sont mis donc à contribution pour l'apprentissage de la devise. En réalité, puisqu'il y a la façade depuis 2008, il doit y avoir la devise et les drapeaux français et européens. Et depuis 2019, c'est dans 5 chaînes de classe qu'il doit y avoir la devise, le drapeau, les paroles de la Marseillaise. Je connais quelqu'un qui est photographe scolaire et qui me dit qu'il rentre dans beaucoup de classes où il ne voit pas du tout tout ça. Le problème, c'est qu'il y avait deux manières de procéder pour mettre ça en place. C'était soit demander aux enfants d'écrire les paroles de la Marseillaise, de dessiner le drapeau de la France, etc., et d'afficher ça. Mais en réalité, quand ça existe, les directeurs ont acheté des plaques de plexiglas ou métallique où il y a les paroles de la Marseillaise, la devise et un dessin du drapeau français. C'est des entreprises spécialisées qui produisent ça. Toutes les écoles n'ont pas les fonds nécessaires. Les instituteurs ou institutrices, enfin professeurs des écoles, n'ont peut-être pas le temps d'ajouter les travaux manuels pour faire écrire les paroles de la Marseillaise et tout. Et donc, apparemment, c'est pas dans toutes les écoles. Alors, deuxième manière de faire connaître la devise aux citoyens, c'est de l'inscrire sur les bâtiments. Donc, on a eu 1793, ça a été effacé à partir du directoire et du consulat. Après, on a eu 48. En 48, il y a eu quelque chose de spontané. En 48, on inscrit sur les mairies et sur un certain nombre de maisons. Alors, on inscrit comment? Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'on grave? Est-ce qu'on colle des lettres de bronze? Moi, à mon avis, on a plutôt peint, parce que ça a disparu assez vite. Je crois que c'était plutôt des inscriptions qui étaient peintes. Et puis, de nouveau, ça réapparaît, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1879-1880, mais à ma connaissance et à celle de Gérard Monnier, sans qu'aucun texte ne rende ça obligatoire. Donc, ces inscriptions, quand elles ont existé, elles ont continué d'être là sous la Troisième République, et là encore, c'est intéressant, Vichy ne les a pas faites toutes disparaître. Et Robert Brasillach, qui était un affreux, parmi tous les affreux de l'État français, s'est plaint amèrement dans son journal « Je suis partout », qui est une horreur. Il s'est plaint dans son journal que l'entreprise d'effacement des devises n'ait pas été systématique et qu'on puisse encore en lire ici ou là. Alors, contrairement à ce que l'on peut penser, puisqu'il n'y a pas de texte en 48, puisqu'il n'y a pas de texte en 79-80, et qu'il n'y en a pas après, l'inscription de la devise sur les mairies n'est absolument pas obligatoire. Elle est très fréquente, mais elle n'est pas systématique. Et la seule obligation ne se rapporte qu'au mur des bâtiments, des écoles, pas depuis 2008 d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais depuis la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013. La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré, patati patata. Alors là, vous avez... Donc, ça c'est une école du 13e arrondissement, une école qui date ou de la fin du 19e siècle, ou du début de la première, là, ou du tout début du 20e. Et là, même si c'était pas obligatoire, on a quand même des écoles où la devise est gravée. Et là, elle est gravée tout en haut sur le fronton. Vous voyez, vous avez le futur Necmegetour, et dessous, vous avez donc la devise. Mais là, ce n'était pas du tout obligatoire, et toutes les écoles anciennes n'ont pas cette devise qui est ainsi gravée dans la pierre. Alors, si on passe à la seconde, voilà. Là, c'est une photographie qui a été prise à Dijon. Donc là, ça se rapporte à la loi de 2013, où on a à la fois la devise, et vous avez à la fois le drapeau français et le drapeau européen. Seulement, vous ne les avez pas en tissu, vous les avez dessinés sur une plaque de plexiglas. C'est Michel Pastoureau qui dit que quand les drapeaux tricolores n'est pas sur un morceau de tissu, mais qu'on a les trois couleurs qui reposent sur un support quelconque, il dit c'est une image conceptuelle du drapeau, mais ce n'est pas le drapeau à proprement parler, puisqu'on n'a pas un morceau de tissu qui flotte au vent. Et effectivement, sur la façade de cette école de Dijon, il n'y a pas les drapeaux en chair et en os, j'allais dire, il n'y a que cette plaque-là. Alors, à Paris, alors je ne sais pas comment c'est dans vos arrondissements, dans le 13e arrondissement de Paris, par exemple, sur l'école où il y avait la devise gravée depuis la fin du 19e, maintenant, mais j'ai oublié de mettre la photo, il y a une autre plaque, une plaque métallique grise, où il y a liberté, égalité, fraternité en lettres bleues, et il y a aussi les dessins du drapeau européen et du drapeau français. Mais en plus, il y a le drapeau européen et le drapeau français pour de bon. Là, on est vraiment bien cadré dans ces écoles. Alors, ça, c'est pour les écoles. Mais pour les mairies, qu'en est-il? Puisque tout le monde pense que forcément, il y a liberté, égalité, fraternité sur les mairies. Pas du tout. Et le 17 mars 2015, il y a eu plusieurs demandes de députés relative à cette inscription sur les mairies. Alors j'en ai pris une, la dernière que j'ai trouvée. Le 17 mars 2015, le député Christian Bataille souhaite étendre cette obligation de la façade des écoles à la façade des mairies. Donc, voilà ce qu'il dit. Il reconnaît que la devise « liberté, égalité, fraternité » inscrite dans les constitutions de 46 et 58 orne de nombreux bâtiments publics et des écoles, bien que cela ne soit pas obligatoire, mais il dit c'est inscrit sur beaucoup de mairies, mais pas sur toutes. Donc il dénonce l'absence de ce triptyque, on dit triade, trinôme, triptyque pour désigner les trois mots. Donc il dénonce l'absence de ce triptyque et symbole républicain sur le fronton de la mairie de nombreuses communes. Et il demande au ministre de l'Intérieur s'il envisageait de prendre une initiative législative ou réglementaire, donc de passer ou par une loi ou par un décret, qui précise que la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité » est obligatoire et doit figurer de manière permanente sur les frontons des mairies. Ça, c'est le 17 mars 2015. Il reçoit sa réponse le 17 mai 2016. Et voilà la réponse qu'il reçoit. S'agissant des mairies, il n'est pas apparu nécessaire de légiférer, compte tenu du respect assuré par les maires au symbole de la République. Ainsi, les maires inscrivent généralement la devise de la République à l'occasion de la construction ou de la rénovation de l'hôtel de ville. Autrement dit, le ministre de l'Intérieur répond « soit, c'est pas sur toutes les mairies, mais quand on construit une nouvelle mairie ou quand on restaure une ancienne mairie, on en profite pour mettre la devise, donc c'est pas la peine d'aller embêter les maires par une obligation, ils le font spontanément. » Et faut dire que c'est pas totalement faux, parce que j'ai constaté que toutes ces dernières années, il y a une espèce de phénomène de rattrapage d'inscription de la devise sur des mairies qui ne l'avaient pas, souvent à l'occasion d'ailleurs de la fête nationale du 14 juillet. J'ai relevé quelques exemples, par exemple Avon en Seine-et-Marne a mis son inscription en 2014, Prémerie dans la Nièvre l'a mis en 2017, L'Épinasse dans la Creuse l'a mis en 2019, Morange dans la Moselle l'a mise en 2021. Donc vous voyez, c'est des ajouts qui sont quand même tardifs. Je signale que, outre les mairies, cette devise, vous pouvez la voir sur toutes sortes de bâtiments publics. On la voit sur des postes, sur des crèches, on la voit même sur des prisons. Clémenceau raconte, ça doit être dans ses souvenirs, quand on avait guillotiné, je ne sais plus si c'est Ravachol ou Vaillant, je ne sais plus. Bref, il était contre la peine de mort. Lui, sa tasse de thé, c'était pas d'aller voir guillotiner des gens, mais un jour, son entourage politique lui dit qu'il ne peut pas parler de la peine de mort s'il n'a jamais vu une exécution capitale. Donc on le traîne littéralement à la petite roquette pour qu'il voit une exécution capitale. Il en sort horrifié, mais il dit « quel n'a pas été mon étonnement quand je suis arrivé devant les murs de la prison et que j'ai vu liberté, égalité, fraternité. C'était le cas de dire, dit-il, qu'il ne manquait plus que ou la mort, par allusion, en 93. » Mais il y a aussi les églises. Et apparemment, d'après des recherches, c'est pas moi qui ai fait les recherches, je les ai trouvées sur Internet, des gens qui ont recherché les églises avec l'inscription « liberté, égalité, fraternité », qui en ont retrouvé 150, beaucoup situés dans le midi de la France. Alors parfois c'est relativement discret sur la façade principale, donc la façade qui est orientée à l'ouest puisque le cœur de l'église est orienté vers l'est, mais parfois c'est sur les murs latéraux, donc nord et sud des églises, donc sur un mur beaucoup plus long qu'une simple façade. Donc on a liberté, égalité, fraternité qui se déploie comme ça tout au long de l'église. C'est spectaculaire. Je l'ai vu aussi une fois, enfin j'ai vu les photos qui ont été mises sur Internet, tout autour du chevet de l'église. Et parfois c'est assorti de l'inscription propriété communale. Le problème, il faudrait faire des recherches dans les archives municipales de chaque commune pour savoir quand cette devise a été ajoutée sur les églises et pour quel motif. Il y en a peut-être qui datent de la Révolution. J'en ai vu quelques-unes qui ont l'air très anciennes, qui doivent dater de la Révolution. J'en ai trouvé une qui, à coup sûr, date de 1884, dans les années de la République triomphante, avec un maire qui était effectivement très anticlérical. On peut supposer aussi qu'il y en a eu beaucoup au moment de la loi de séparation des églises et de l'État, je suppose. Et puis enfin, une autre manière d'inscrire la devise dans l'espace public, c'est par l'intermédiaire des noms de rue et de la statuaire publique. Alors les noms de rue, c'est bien sûr ce qu'on appelle l'onomastique ou l'odonymie. C'est très intéressant. Donc, rechercher toutes les rues qui s'appellent rue de la liberté, rue de l'égalité, rue de la fraternité. Et j'ai même trouvé quatre communes qui ont une rue de la devise, ce qui est quand même très intéressant. Mais on a plus souvent des rues de la liberté, des rues de l'égalité, des rues de la plus fréquente étant très certainement les rues de la liberté. Ce qui est intéressant, c'est de rechercher les villes où les trois existent. Alors, par exemple, à Paris, mais je ne suis pas encore allée voir, je le connais de par le dictionnaire des rues de Paris de Jacques Hilleret, mais je ne suis pas allée voir ce que ça donne sur place. C'est dans le 19e arrondissement, il y a une place d'où partent en étoile une rue de la liberté, une rue de l'égalité et une rue de la fraternité. Donc là, on a bien une association rationnelle, voulue, qui est une manière d'inscrire la devise dans l'espace. À Nantes, on a trois boulevards qui sont dans la continuité, boulevard de la liberté, boulevard de l'égalité, boulevard de la fraternité. À Dijon, on a aussi les trois rues, mais là, un cas tout à fait différent. La rue de la liberté date de 1883, c'est la principale rue de Dijon, elle traverse un assez grand morceau de la ville, elle date de 83. Les rues de l'égalité et de la fraternité sont plus anciennes, si je me souviens bien, la rue de l'égalité c'est de 94 et la rue de la fraternité c'est des années 1894, je veux dire, et la rue de la Fraternité, c'est dans les années 1970-80, donc un bon siècle plus tard. Mais c'est dans des quartiers de la ville qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc c'est pas une inscription rationnelle. Et en outre, la rue de l'Égalité correspond à l'emplacement d'un ancien cimetière. Or, un homme qui a travaillé sur cette odonymie, justement, explique que dans un certain nombre de villes, on a une rue de l'égalité qui est la rue qui va au cimetière ou sur l'emplacement d'un ancien cimetière.
Entre l'église et le cimetière.
Voilà, parce qu'on est tous égaux devant la mort. Après tout, quand une mairie appelle cette rue rue de l'égalité, elle peut avoir les deux idées en tête, à la fois l'égalité devant la mort et à la fois l'égalité de tous les citoyens dans la vie. Enfin, la dernière manière, à part l'onomastique, c'est la statuaire publique. Alors là, j'ai pris l'exemple bien connu de la statue de la République à Paris, donc la statue de Léopold Maurice, qui a été inaugurée en 1980, mais en fait sous forme d'une maquette. Elle est la vraie statue, elle a été inaugurée en 1883 ou 1884, quand tout a été achevé. Donc Léopold Maurice était le sculpteur et l'architecte du monument, dont j'ai oublié le prénom, était son frère. Donc les deux frères Maurice qui ont travaillé sur cette statue. Ce monument se compose de plusieurs étages. L'étage de la statue de la République, un étage intermédiaire avec les trois statues liberté, égalité, fraternité. En dessous, un autre étage où on a le grand lion avec l'urne et puis un certain nombre de bas-reliefs en bronze qui représentent des scènes de la Révolution française. Donc là, si vous allez sur la place de la République, vous verrez la liberté avec son flambeau. Donc vous retrouvez exactement le thème de la statue de la liberté de Bartholdi qui est partie à New York et qui existe, je vous le signale, à plusieurs dizaines d'exemplaires en taille réduite dans plusieurs villes de France. Il y en a plusieurs à Paris d'ailleurs, mais il y en a dans différentes villes françaises. Il y a l'égalité que vous repérez elle tient le drapeau. Alors, c'est écrit, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus, c'est ça, oui, c'est le port salut. Il y a bien écrit égalité, mais surtout, vous la reconnaissez à son niveau, à son triangle. C'est le niveau du maçon. Je crois qu'on ne voit pas le fil à plomb. Le maçon, il utilise aussi le fil à plomb pour s'assurer que son mur est bien droit, que son plancher est bien droit. Donc la légalité, c'est quand tout le monde se trouve sur le même plan. Et puis enfin, vous avez la statue de la fraternité. Là, je n'ai pas pris l'inscription au-dessus. Cette statue de la fraternité, elle reprend, mais ce n'est pas le seul exemple. On a par exemple la fraternité de Daumier. Ça reprend les vieux clichés de représentation de la charité chrétienne. La charité est souvent avec deux enfants, dont un au sein, l'autre par terre. Là, on a bien la fraternité avec les deux enfants qui sont en train de lire quelque chose ensemble et la mère qui veille sur elle et puis par ailleurs tous les signes de fécondité. On avait également, mais il a été démantelé à Lyon, il y avait également un monument de la République où il y avait également les trois allégories de la liberté, de l'égalité, de la fraternité sous une forme beaucoup plus complexe d'ailleurs qu'à Paris. Mais le monument a été démantelé pour construire un parking. Alors cette devise, elle a été constamment soumise à discussion et également soumise à contestation. Soumise à discussion, d'abord pour savoir exactement ce que représente chacun des trois termes du ternaire ou de la triade ou du triptyque ou du trinôme, savoir d'où ça vient, le christianisme, les lumières, etc. Mais aussi savoir dans quel ordre on doit les mettre et quels sont leurs rapports entre eux. Est-ce qu'on doit mettre en tête la liberté? Est-ce qu'on doit mettre en tête la fraternité? Est-ce qu'on doit mettre en tête la légalité? Quel est le plus important de tous? Pour les uns, c'est la fraternité, pour les autres, c'est l'égalité. Par exemple, pour Pierre Leroux, dont je vous parlais tout à l'heure, c'était l'égalité qui était vraiment le terme le plus important. Avec un autre auteur, Jean Reynaud, ils ont publié un grand dictionnaire encyclopédique dans lequel il y a à peu près 60 pages qui sont consacrées à la devise de la République. Mais ça n'apparaît pas à l'entrée devise de ce grand dictionnaire, ça apparaît à l'entrée égalité, et ça commence par l'égalité. Et puis après, développement sur la liberté et sur la fraternité. Donc c'est pas devise, c'est égalité, ça c'est important. Donc beaucoup de discussions sur ces rapports entre les trois principes, les trois concepts, etc. Et puis des contestations dès la Troisième République et maintenant également. Sous la Troisième République, la gauche et encore plus l'extrême gauche exprimèrent de vives critiques contre la devise de la République parce que, enfin, on estimait à gauche et à l'extrême gauche que c'était une devise mensongère. Donc Louise Michel, peu de temps avant sa mort, en 1900 je crois, Louise Michel dit que la devise de la République est outragée tous les jours et elle dit « si j'étais sculptrice, je ferais un groupe sculpté qui représenterait un voile avec trois figures cachées et j'expliquerais que derrière ce voile, les trois figures cachées sont la liberté, l'égalité et la fraternité dont on parle mais qu'on ne voit jamais. » Et Jean Jaurès, un petit peu avant, en 1895, avait déclaré ceci « aujourd'hui, il n'y a pas une seule grande parole qui ait son sens vrai, plein et loyal. Fraternité et le combat est partout. Égalité et toutes les disproportions vont s'amplifiant. Liberté et les faibles sont livrés à tous les jeux de la force. Mais, disait-il, ce n'est pas que je veuille qu'on transforme ou qu'on abolisse cette devise, mais simplement qu'on réduise l'écart entre les mots et la réalité de telle sorte que ces formules aujourd'hui menteuses devinssent des vérités. » Voilà ce qu'il disait. Mais tout le monde ne partageait pas cette idée au temps de Louise Michel et de Jean Jaurès. Par exemple, en 1892, à une époque où il n'était pas encore président de la République, il était président du Conseil et ministre de l'Intérieur. Émile Loubet vient dans la Drôme à Dieulefitte pour inaugurer une école. Il prononce un discours. Voilà ce qu'il dit dans ce discours pour vanter les mérites de la République. « Liberté, aucune puissance n'en jouit à un degré aussi élevé que la France, de même que pour l'égalité. Quant à la fraternité, il y a beaucoup de faits, deux points. Les institutions de prévoyance, les caisses de retraite pour les vieillards, Le gouvernement prépare de plus en plus cette œuvre qui est près d'aboutir. En réalité, la loi sur les retraites, elle est arrivée en 1910. Donc quand même un certain temps après. Alors à cette époque-là aussi, on a une forme de contestation qui vient de Léon Bourgeois, l'inventeur de la doctrine qu'on a appelée le solidarisme, qui reproche à la fraternité, mais comme beaucoup de contemporains et comme beaucoup de gens avant et après, qui reproche à la fraternité de ne pas être un vrai concept comme la liberté et l'égalité, d'être un terme affectif, d'être un terme flou, et qui dit... On peut prendre des lois pour établir la liberté, liberté d'aller et venir, liberté de ceci, liberté de cela. On peut établir des lois sur l'égalité. Comment voulez-vous établir des lois qui ordonnent aux hommes de se considérer comme des frères et de s'aimer comme des frères? Ça n'a pas de sens. Donc c'est un terme très flou qui ne peut pas avoir de conséquences effectives. Donc il proposait de remplacer fraternité par solidarité. Ce qui d'ailleurs contristait fortement Ferdinand Buisson, qui aimait beaucoup le mot fraternité. Il y a eu plusieurs propositions récemment qui ont constitué non pas à remplacer fraternité par solidarité, mais à ajouter solidarité. Mais ce sénateur Jean-Pierre Decoule, en 2021, propose de substituer solidarité à fraternité, mot difficile à cerner. Et il dit solidarité avec un S. Il explique la forme plurielle parce qu'elle vise à souligner les multiples formes de solidarité ayant eu cours durant l'épidémie de Covid-19. Alors, sur les autres formes de contestation, fraternité est un mot qui est contesté très fortement par les féministes, femmes, mais aussi par quelques féministes, hommes, parce que c'est un terme considéré comme non inclusif, puisque frère, ça renvoie à des frères et pas à des sœurs. À la limite, vous savez, on peut discuter sur homo et weir, on peut dire homo, ça renvoie aux hommes et aux femmes. Frère, c'est pas sœur, ça c'est sûr. On ne peut pas raisonner comme avec homo. Donc, il y a beaucoup de féministes qui ont commencé par dire on vire fraternité, on met sororité. Mais d'autres disent, mais on ne va pas remplacer un terme non inclusif par un autre terme non inclusif. Ça n'a pas de sens. Donc, soit il faut mettre fraternité et sororité, ça personne ne l'a proposé. Moi, je proposais un mot valise, frater sororité, ça serait rigolo. Non, l'autre mot qui est apparu, c'est le mot adelphité. Alors, adelphité, P-H-I-T, c'est un mot qui vient du grec, qui était utilisé en français comme terme de botanique. Je ne sais plus bien pour une histoire de pistil, de sépale, de je ne sais plus bien trop quoi. Enfin bref, une histoire de botanique. C'est un mot donc qui vient du grec, adelph, adelphé. En grec, ça désigne la matrice. Adelphos, c'est le frère. Adelphé, c'est la sœur. Donc c'est des enfants qui sont nés du même sein et de la même matrice. Donc si on dit adelphité, c'est mieux que fraternité, c'est mieux que sororité, parce que ça inclut les frères et les sœurs. Le problème, c'est un mot que personne ne comprend. Mais n'empêche que le 18 avril 2018, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a déposé un avis sur une révision constitutionnelle garante de l'égalité femmes-hommes. Parmi ces diverses propositions figurait le remplacement de liberté, égalité, fraternité par liberté, égalité, solidarité, ou bien liberté, égalité, adelphité. Mais un certain nombre de féministes ont fait remarquer après que c'est un non-sens, parce que personne ne comprendra. Et puis, comment expliquer ce mot? Et enfin, bref. Surtout, ce qui s'est passé, c'est que depuis 2004, il y a eu de multiples propositions avancées par des députés. Il y a une proposition en 2013, je crois, par des radicaux et des radicaux socialistes, mais toutes les autres propositions, 2004, 2008, 2013, 2016, 2021, je ne sais plus encore, toute une série de propositions pour ajouter laïcité à la devise. Ça, ça a été vraiment très important. Alors simplement, je vais vous montrer quelque chose. Il y a les propositions de loi constitutionnelle pour ajouter laïcité à la devise. Mais indépendamment de ça, il y a des maires qui ont décidé, tout seuls comme des grands, d'ajouter laïcité sur leur école communale. Et là, on est à Étampes, Et le maire d'Étampes est Franck Marlin, qui justement a déposé une proposition de loi constitutionnelle en 2004, en 2008, je crois, et en 2013 pour ajouter laïcité. Il n'a jamais eu gain de cause, mais en tant que maire d'Étampes, voilà ce qu'il avait décidé en 2020, je crois, décidé d'ajouter comme ça laïcité. Il y avait des sortes d'écus sur les grilles de ses écoles. Il ajoute ça. Le préfet lui demande de retirer laïcité, puisque ce n'est pas constitutionnel, ce qu'il ne fait pas. Donc, le préfet saisit le tribunal administratif de Versailles, qui conforte l'avis du préfet et qui lui donne l'ordre de retirer laïcité. Alors, pas idiot, voilà ce que fait Franck Marlin. Il enlève les vieux blasons qu'il avait mis et il en met de nouveaux parce que très exactement le tribunal administratif de Versailles, et peut-être que c'est allé devant la cour d'appel administrative, je me souviens plus très bien, mais en tous les cas, le tribunal administratif de Versailles dit qu'avec les inscriptions précédentes, le maire avait composé un tétraptyque homogène, puisque les quatre mots étaient écrits avec les mêmes lettres, la même couleur, etc. Donc un tétraptyque homogène, ben, que fait Franck Marlin? Il se dit, je vais détruire mon tétraptyque homogène et je vais faire autre chose. Donc, République française, liberté, égalité, fraternité, en haut de la figure de Marianne, la figure de Marianne, laïcité d'autres lettres, c'est en romain et pas en italique, c'est en bleu et c'est pas en blanc, et c'est pas dans la continuité directe de liberté, égalité, fraternité. Mais il a quand même réussi son coup, il a quand même rajouté laïcité. Alors récemment, j'ai vu que, mais ça doit être en 2021, le Conseil général de la Lozère a fait ajouter laïcité sur la façade de tous les collèges de la Lozère, mais c'est fait de manière astucieuse, on ne peut rien leur reprocher, parce qu'il y a liberté, égalité, fraternité en italique, en lettres bleues, je crois, et puis en dessous, mais en décalé, et en autre couleur, il y a laïcité. Donc, là encore, ça ne fait pas une composition homogène. En revanche, à la rentrée de 2024, alors j'attends de voir ce qui va se passer, à la rentrée 2024, on est quand même déjà au mois de juin, le maire du Kremlin-Bicêtre a fait ajouter sur les écoles du Kremlin-Bicêtre, au moins sur une école, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Là, on a la même écriture, on a la même couleur et c'est sur la même ligne. J'ai encore rien trouvé qui montre que... Il y a une affaire administrative en cours. Et ben voilà. Mmh.